On va laisser la seconde table s'installer et j'en profite pour faire une minute de publicité, comme il est de rigueur. Donc peut-être simplement un petit mot sur le festival, la Prestart, 9e édition. Cette année, on poursuit des réflexions, je ne sais pas, il y a sans doute certains d'entre vous qui ont dû participer l'an dernier. On avait parlé d'Apocalypse. Ça tombait pas forcément très bien dans le timing, mais le sujet était voilà. Et aujourd'hui, on poursuit finalement ces réflexions. On a décidé d'explorer la question de la place de la nature dans les jeux, et plus spécifiquement les animaux dans cette continuité chère au monde des bibliothèques, pour parler de bestiaires et finalement faire un pont entre les collections que garde la BNF et celles que nous montrons. Donc au programme du festival, c'est comme chaque année, plein de workshops, plein d'ateliers qui sont tout au long de la semaine. Il y a un événement sur lequel j'attire particulièrement votre attention, c'est le forum du jeu vidéo qui aura lieu dans cette même salle demain. C'est une perspective qu'on fait pareil là depuis 3 ans. On essaye de faire des petites conférences, pas ennuyeuses, 40 minutes, très dynamiques, où on fait se rencontrer un créateur de jeu avec une personnalité issue de la société civile, en l'occurrence aujourd'hui plutôt des philosophes, des chercheurs, et qui vont essayer d'explorer assez largement cette thématique. Et j'en ferai un tout petit mot, mais vous aurez sans doute envie de manger, donc autant peut-être commencer maintenant. Cet après-midi, je vous invite vraiment à rester à la BPI à partir de 14h30. On fait un gros événement en partenariat avec Cap Game, avec Brut Pop, avec l'APF France Handicap et avec des bibliothèques de la ville de Paris, avec d'autres bibliothécaires de France. On va vous présenter plein de dispositifs pour rendre accessible le jeu vidéo. C'est-à-dire que là, tout de suite, avec Fanny Lemaire et ses invités, vous avez la partie théorique. Et cet après-midi, la démonstration pratique, donc je vous invite vivement à rester. Voilà, il y aura des fils, ça sera à l'entrée de la BPI, je ferai un petit mot logistique. Et Fanny, à toi les studios.
Merci Nathanaël de mettre la barre haut avec la partie théorique. On va essayer d'être effectivement à la hauteur, et effectivement il peut y avoir du level quand on parle de jeux vidéo. Alors, il peut sembler un peu paradoxal de juxtaposer le mot inclusion et jeux vidéo, je dirais, parce qu'un des premiers réflexes que l'on peut avoir, c'est même un lieu commun, c'est de plutôt imaginer l'ado ou le jeune adulte reclus dans sa chambre. Mais en fait, quand on dit jeux vidéo, on dit bien sûr jeu, et qui dit jeu dit avant tout convivialité et échange, et qui dit jeu aussi dit règles. Les règles qui s'appliquent durant la partie ne sont pas celles du monde réel, ni celles de la société. Alors, qui plus est, quand on pratique le jeu vidéo, on a l'habitude de ces transgressions de la réalité parce qu'on peut s'identifier à un personnage qui a des pouvoirs, des compétences, une apparence complètement différente de celle de la réalité de tous les jours. Voilà. Donc, dans l'esprit du jeu vidéo, nous sommes tous égaux, du moins en début de partie. Mais comment parvenir à jouer quand le jeu ne le permet pas de prime abord? En effet, qu'il s'agisse des matériels, des dispositifs ou des gens en eux-mêmes, il était aisé d'imaginer les freins et les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap. Comment ce qui semble a priori très éloigné des personnes en situation de handicap s'avère un formidable outil d'inclusion? Alors, cette table ronde va nous permettre de discerner quels sont les leviers qui permettent d'inclure les personnes en situation de handicap en tant que gamer à part entière. Alors, ce qui est sans doute, je pense, la question préliminaire à laquelle il faut répondre avant d'aborder le rôle des jeux vidéo comme facilitateur dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les établissements culturels et en particulier les bibliothèques. Alors, pour répondre à ces deux questions, nous accueillons donc David De Filippo, qui est bibliothécaire, chargé de médiation jeux vidéo donc à la médiathèque Vaclav Havel de Paris, 18e. Monsieur Jérôme Dupire, qui est professeur-chercheur au CNAM et cofondateur de l'association Cap Game. Et Madame Roudex, Carole, qui est donc chargée de l'accessibilité pour les personnes en situation de déficience visuelle à la Cité des sciences et de l'industrie. Voilà, je ne me suis pas trompée. Donc, donc je laisse dans un premier temps, quand même, on va prendre le temps de mieux connaître ces trois invités et leur action. Donc je donne la parole à Jérôme pour nous présenter son association et tout ce qui a pu se passer depuis 2013, date de la création.
C'est parti. Donc on a créé CapGame en 2013, en effet. Donc CapGame, c'est une association loi 1901 classique, sur un constat à l'époque qui était du manque d'informations à destination des joueurs et des joueuses en situation de handicap par rapport au matériel et au logiciel qui pouvaient déjà exister. Et qui pouvaient être des facilitateurs donc à l'accès à ces jeux mainstream. On parlera toujours de jeux grand public. On n'est pas du tout sur le créneau de jeux spécifiques pour des populations en situation de handicap. On traite justement de l'accès aux jeux grand public. Des solutions existaient, mais n'étaient pas connues par les utilisateurs et utilisatrices qui auraient pu en bénéficier. Et le deuxième élément de motivateur a été le constat qu'il y avait beaucoup d'auto-inhibition dans cette population en situation de handicap qui partait du principe que, étant en situation de handicap, le jeu vidéo n'était pas une activité qui leur était accessible, imaginable, praticable. Donc on a toujours cette activité, parce que ça reste toujours d'actualité, il y a toujours des personnes qui sont aujourd'hui en retrait de ces flux grand public. Et du coup, de la connaissance de cette évolution qu'il y a eu quand même depuis 2013 sur ces sujets. Aujourd'hui, CapGame, et depuis 2017, qui est une année un petit peu charnière dans l'histoire de l'accessibilité des jeux vidéo, parce qu'on est passé d'un monde où il n'y avait rien, à un monde où ça commence à bouger, et ça commence à bouger un peu partout, et dans des dynamiques qui sont très positives. Et donc à partir de 2017, il s'est placé plein de choses qui nous a amené à restructurer un petit peu l'association, qui aujourd'hui travaille sur 5 domaines différents et complémentaires. On a toujours un axe de veille technologique et de diffusion de ces solutions, qu'on appelle solutions. On a un axe testing, qui a vocation à évaluer les jeux vidéo grand public selon des critères d'accessibilité, pour donner cette information diffuser cette information au plus large et faire en sorte que les personnes soient informées des difficultés ou des facilitateurs qui existent dans les jeux qu'on aura testés pour déclencher ou pas l'achat. On a un axe recherche et développement, donc on imagine des trucs farfelus. Un axe consulting qui nous permet de faire de la sensibilisation, des formations ou de l'accompagnement de production en jeux vidéo avec des cibles, des clients. Qui sont à la fois des gens de l'industrie du jeu vidéo, des gens qui sont plus liés au médico-social ou d'autres personnes qui relèvent de la médiation culturelle. Et le dernier axe, c'est l'axe e-sport, donc qui est la pratique compétitive des jeux vidéo, qui va ramener une couche supplémentaire de difficultés, puisque au-delà de l'accessibilité du jeu en lui-même, on a toutes ces questions d'accessibilité de l'événement, donc qui pourraient également être inspirant pour vos professions, puisque là on a toutes les questions de bâtiment, de communication, de dispositifs qui sont mis en place ou pas durant ces compétitions e-sportives. Voilà, pour faire court.
On a beaucoup de temps devant nous pour explorer ce sujet qui mérite, qui est une expansion constante finalement quand on vous écoute. Hein, ça. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a une prise en compte qui est en train de monter, des compétences aussi qui sont en train d'être acquises, mais on est au début du chemin, si je puis m'exprimer ainsi, même si vous, ça fait déjà quand même quelques années que vous œuvrez pour cette partie-là. Alors maintenant, je vais peut-être passer la parole à Carole pour qu'elle nous parle de son action au niveau de la Cité des sciences et de l'industrie.
Oui, alors déjà, merci de nous accueillir pour cette journée. Alors, donc moi je suis chargée d'accessibilité pour le public déficient visuel à la Cité des sciences. Actuellement je travaille plus sur l'accessibilité des expositions, mais pendant 13 ans je travaillais à la salle Louis Braille, qui est un espace qui accueille les personnes déficientes visuelles et qui est équipée de postes informatiques adaptés. Et je vais vous parler d'une expérience qu'on a faite en 2014. Hein. Donc à la Cité des sciences, il y a eu une exposition sur les jeux vidéo. Et proposer une offre transverse à l'offre d'exposition. À la salle Louis Braille, on a mis en place un atelier de co-construction d'un jeu vidéo accessible audio par des étudiants déficients visuels qui venaient du centre Guinot. Et donc on a proposé, on a trouvé un intervenant qui s'appelait Thomas Gaudy, qui est concepteur de jeux vidéo. Il a fait un doctorat sur la thématique des jeux vidéo accessibles et audio. Et maintenant, il travaille au Canada. Il a les cofondateurs notamment d'une association qui s'appelle Ludociel pour tous et qui continue à développer des jeux pédagogiques accessibles un peu tout handicap, hein, pas forcément que déficient visuel. Et donc on a mis en place cet atelier sur 2 journées et demie, et donc les étudiants ont pu, donc déficients visuels, malvoyants, non-voyants, ont pu découvrir en fait toutes les facettes de développement d'un jeu vidéo, le design, le son, scénariser un jeu, les difficultés, comment on joue. Et c'était une expérience vraiment... moi, c'était la première fois que je mettais ça en place, donc on a tous découvert, on a tous fonctionné au fur et à mesure. Et au bout de ces 2 journées et demie, en fait, ils ont réussi à atteindre l'objectif qui était de développer un prototype de jeu jouable, pas du tout complètement abouti. On peut jouer, donc il est téléchargeable sur le site de la Cité des Sciences. Il y a encore quelques petits bugs, il n'est pas complètement finalisé, mais le but, ce n'était pas forcément de proposer un jeu finalisé, c'est d'avoir cette expérience d'atelier de co-construction avec un public, et de découvrir les métiers aussi du jeu vidéo et les questions qu'il faut se poser pour pouvoir faire un jeu vidéo. Alors c'est un jeu vidéo audio, donc pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est peut-être un peu compliqué pour y jouer. Ce sont des images fixes. Mais par contre, c'est un jeu qui peut être joué aussi par des publics voyants, donc c'est aussi une façon de sensibiliser le public voyant sur d'autres jeux à jouer autrement. Donc les jeux audio peuvent être aussi un moyen de découvrir pour le public voyant, le public large, de jouer autrement, d'avoir une autre expérience de jeu que les jeux sur lesquels il a l'habitude de jouer. Voilà pour l'expérience. Cet atelier a été monté aussi dans une programmation beaucoup plus large. On l'a fait découvrir à la salle Louis Braille ce jeu-là. On a installé aussi 10 de jeux audio ou audiovisuels à la salle Louis Braille et qui se jouent sur PC ou sur iPad à l'époque. Et on a proposé au public déficient visuel de venir jouer à la salle Louis Braille pendant 1h30 sur ces jeux, et ainsi qu'au public voyant qui le souhaitait, mais prioritairement les inscriptions c'était pour le public déficient visuel parce que la salle est toujours toute petite, donc on ne peut pas accueillir beaucoup de monde, mais ça restait ouvert aussi au public voyant qui voulait découvrir ces jeux-là. Et donc ils venaient sur une après-midi, ils avaient 1h30 de jeu à la salle Louis Braille de découverte. On a mis en place des modes d'emploi du jeu qu'après on leur a envoyé par internet, comment prendre en main le jeu et tous les sites de référence pour télécharger les jeux et les installer. Et à la suite de ça, on faisait une médiation adaptée par un médiateur scientifique dans le cadre de l'offre de médiation en lien avec l'exposition. Il y a une animation qui s'appelait « La science prend les manettes » et qui expliquait l'évolution du jeu vidéo à travers le jeu Evoland. Et du coup, on a adapté les supports et le scénario de cette médiation qui est animée par un médiateur scientifique. Donc, on a proposé des supports en papier thermogonflé ou, par exemple, pour une personne déficiente visuelle, ça lui permettait de comprendre ce que c'était un pixel, en fait. Et on avait différentes planches où les premières planches étaient très pixelisées. Donc, on avait des gros carrés bien en relief pour montrer qu'au tout début du jeu vidéo, l'image n'était pas forcément de la même qualité qu'elle est à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure des planches, en fait, on avait des carrés qui étaient devenus de plus en plus fins. Et du coup, ça permettait de comprendre ce que c'est un pixel et l'évolution de la qualité de l'image. Et enfin, ils en avaient pour toute une après-midi. Hein. C'était un peu long, mais ils sont quand même tous venus. Hein. Et donc, la dernière chose qu'on leur proposait, c'était de visiter l'exposition jeux vidéo qui avait, en termes d'accessibilité pour le public déficient visuel, une accessibilité assez limitée. Par contre, on avait réussi à faire installer le jeu, alors comment il s'appelait, Blind Mustang Monster Attack. Donc, c'est un jeu qui avait été développé par des étudiants dans un cadre d'un concours et qui se joue à 2 personnes, une personne voyante, une personne déficiente visuelle. Et on a fait une adaptation de ce jeu avec 2 gros postes, en fait, 2 cabines, et chaque joueur jouait. Il y en a un qui essaye de tuer l'autre, en fait, en gros. Voilà. Voilà pour l'expérience complète qu'on a montée en 2014.
Merci beaucoup, Carole. Alors, je pense que un des créateurs des villes... Blind Mutant Monster Attack, juste à côté de vous. Et c'est un jeu très flippant. Enfin, la bande-son est vraiment Alors, particulièrement bien réussi.
C'est pas tout à fait juste, j'ai rien créé. Moi, il m'arrive dans mon autre vie d'être enseignant à l'école des jeux et des médias interactifs numériques à Angoulême, donc qui dépend du CNAM, dont ce jeu est issu, et c'est un projet étudiant qui a été à l'origine de cette proposition, qui est effectivement originale. Déjà à l'époque, je ne sais plus exactement la date à laquelle ils l'ont créé dans leur première année de master, mais c'était un parti pris sur un jeu asymétrique, donc un joueur contre un joueur, mais avec des modalités différentes. Donc un n'avait que la vue, et donc aucun son, et l'autre n'avait que le son. Ce qui faisait que de base, ce jeu était jouable par des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui pouvaient également être jouées par des personnes déficientes visuelles, des personnes sourdes, alors sur un des deux rôles évidemment, mais qui permettait une inclusion finalement de personnes aux capacités différentes dans une proposition de jeu qui était adressée à tout le monde. C'est un jeu qui a super bien marché, on voyait que les personnes déficientes visuelles d'ailleurs mettaient des roustes monumentales aux voyants. C'est un jeu qu'on a exposé dans pas mal de lieux, à Futur en scène à l'époque, sur le Centre des Arts à Enghien-les-Bains aussi lors d'une animation, ça a été vraiment diffusé largement, le salon autonomique également. Et la diversité des publics a vraiment bien accueilli le jeu, qui était très original et du coup très jouable, avec une session de jeu très courte. Et ça faisait le taf, en fait. C'était un jeu où c'était fun. Effectivement, il y avait des trucs un peu dégueux, ça dégoulinait un peu, c'était très marrant. La session de jeu était courte et en même temps, on donnait à comprendre ce que pouvait être le jouer autrement, que j'aime bien utiliser aussi comme terminologie. Et surtout jouer avec des personnes aux capacités différentes sans avoir cette mise en avant-plan de ces différences qu'on a trop l'habitude de rencontrer au quotidien.
Merci pour la précision. David, je vais passer la parole. Donc toi, tu vas sans doute entrer vraiment dans le concret de la vie des jeux vidéo en bibliothèque, puisque tu es chargé de cet aspect à la médiathèque Vaclav Havel.
Absolument. Tout à fait. Donc je vais essayer d'expliquer rapidement ce qu'on fait en effet dans la bibliothèque. La bibliothèque Vaclav Havel, en fait, depuis octobre 2013 déjà, a mis en place vraiment une salle dédiée aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment la seule à Paris qui propose ça en bibliothèque municipale, et on propose aux personnes de jouer vraiment à tous les systèmes, et donc elles viennent en fait sur place essayer les consoles. Il faut réserver bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Et effectivement, je ne travaille pas encore dans le salon du jeu vidéo, moi je travaille dans cette bibliothèque là, mais avant j'étais dans les pôles sourds. Je ne sais pas si vous connaissez les pôles sourds à la médiathèque et la bibliothèque de Paris, il y en a 5. Excusez-moi, je me permets. Voilà. Donc je recommence. Excusez-moi, donc à Paris, il y a 5 pôles sourds qui consistent en fait à accueillir les personnes sourdes et les personnes sachant signer en langue des signes, tout simplement. Il y a également 2 pôles qui sont spécialisés pour les personnes déficientes visuelles et avec qui on travaille évidemment sur tous ces aspects-là. Donc je travaillais auparavant dans un pôle sourd et finalement je suis arrivée avec la Vavel et en fait on s'est rendu compte que le jeu vidéo était un média particulièrement intéressant, que en plus en lien social aussi avec un quartier populaire, avec beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, qui s'installent à côté, des personnes qui sont aussi en déficit mental, pardon, plusieurs institutions, on travaille avec plusieurs IME, plusieurs CPJ par exemple, et en fait on accueille tout type de public dans sa bibliothèque, et à chaque fois c'est un média qui fonctionne très bien, le jeu, parce que ça permet de donner à la fois du plaisir, aussi d'éviter l'écueil de la lecture à la bibliothèque et le remplacer par un média interactif, donc ça marche très bien. Pour les personnes sourdes, évidemment, moi-même donc je suis sourd, on les accueille bien sûr aussi, et puis petit à petit on s'imprègne un peu de ce jeu vidéo. On a organisé là pour la première fois, c'était mi-décembre dernier, donc c'était, là on est en 2021, donc pardon, 2020, ça passe vite, pardon, donc presque un an finalement. Donc évidemment c'était un peu compliqué, les actions culturelles sont limitées à cause du Covid, on avait suspendu pas mal de choses dans nos bibliothèques, et donc on souhaitait justement attirer ces publics-là. Donc on a beaucoup réfléchi autour d'un outil qui nous paraîtrait vraiment accueillir tout le monde, je dirais. Et on s'est dit, bah, le jeu vidéo, on l'a déjà. Ça peut être super de pouvoir utiliser ça pour apprendre d'autres choses et s'ouvrir à d'autres choses encore. Donc, on a réfléchi là-dessus. Et en fait, on a décidé de faire des lives, des streams, vous savez, de jeux. Donc, moi qui signais et un collègue bibliothécaire qui parlait en français, donc traduit par les interprètes, hein, en français et en langue des signes. Et donc, on jouait en live comme ça devant tout le monde. Et on était en interaction avec les gens à distance. Et ça a très, très bien fonctionné. Petit à petit, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et donc, on en a fait d'autres après par la suite. Voilà, donc j'ai brossé un petit peu rapidement les projets. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes collègues.
Merci, David. Alors, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur votre espace avec la Babel, tu as fait une vidéo où tu envoies justement vos consoles rebaptisées Zelda, Lara Croft. Enfin, c'est vraiment un super espace. Et grâce à ta vidéo, enfin, on comprend vraiment comment vous fonctionnez. Voilà. Bon, j'ai pas l'adresse là en tête, mais je pense que c'est facile à retrouver sur Internet. Alors moi, j'avais... on va commencer les questions, hein, puisque vous avez fini la présentation. Alors, je commence par une question indirecte qui a été envoyée par Yasmina Crabière via la liste Bibliothèque Accessible, qui nous demandait justement, quand on parle de jeux accessibles, à quel type de public s'adresse-t-on ? Tous les publics en situation de handicap ou en difficulté de lecture, ou seulement certains. Entre parenthèses, ce qui serait déjà bien si on s'adressait à certains. Voilà, donc je vous livre sa question telle qu'elle a été posée sur Bibliothèque Accessible, et je pense que voilà, c'est un bon préliminaire parce que ça pour débuter, parce que ça, voilà, c'est une des premières, je pense, interrogations qu'on peut avoir quand on est bibliothécaire, c'est un peu aussi, derrière cette question des publics, par quoi commencer ? Alors, qui se lance ?
Je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais je pense qu'il faut, si on est en bibliothèque, il faut pouvoir proposer des jeux à grand public, mais dans ces cas-là, qui sont identifiés avec des critères d'accessibilité. Donc, tout le travail qui est fait par Cap Game ou d'autres associations ou d'autres structures, de tester des jeux et d'évaluer leur accessibilité en mettant une note, etc. Il faut que les bibliothécaires, les bibliothèques ou les établissements culturels puissent avoir accès à ces notes d'accessibilité. Et quand ils proposent des jeux vidéo au grand public, qu'ils mettent dans leur catalogue la note d'accessibilité ou les informations complémentaires pour que le public puisse savoir que s'il va venir à la bibliothèque ou s'il veut emprunter ce jeu, il est accessible, dans quelles conditions, parce qu'il y a un matériel adapté qu'on peut monter sur la console. Je ne sais pas, parce que le son suffit et qu'on peut jouer même si on ne voit pas l'image. Et ça, c'est le rôle des bibliothécaires de noter ça dans leur catalogue pour que le public soit informé. Un peu comme les notices bibliographiques qu'ils font pour les livres. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a un travail de test qui est fait. Il y a des notes d'évaluation qui sont faites sur les jeux grand public. Donc, je pense que c'est une première solution à mettre en œuvre. Après, on a les jeux grand public, c'est très bien, mais aussi, il ne faut pas s'empêcher de mettre des jeux spécifiques. Ils ne sont pas en opposition, je pense qu'ils sont complémentaires. Nous, quand on avait développé cette offre sur les jeux vidéo audio, en fait, avec grand étonnement, finalement, très, très, très peu de personnes déficientes visuelles. Et c'est 2014, hein, ça date un peu, mais c'est pas aussi vieux que ça, hein, ne connaissaient pas les jeux vidéo audio. Et c'est assez surprenant. Donc je pense qu'un lieu culturel, c'est aussi un lieu qui doit présenter toute l'offre. Donc l'accessibilité des jeux grand public, très bien, il faut en avoir, avec du matériel qui permette à tous de jouer et de jouer ensemble. Mais il faut aussi proposer des jeux spécifiques. Parce que ça va répondre aussi à une certaine demande. Toutes les personnes n'ont peut-être pas envie de jouer sur des jeux grand public parce qu'ils y trouvent pas leur compte, en fait. Donc, il faut avoir une diversité d'offres et c'est complémentaire. En tout cas, ça ne s'oppose pas.
C'est cool, on va pouvoir commencer à débattre. Je trouve ça, ce point de vue très intéressant. Je suis partagé, en fait. J'ai pas d'avis tranché, comme ça m'arrange aussi. Le fait est que quand on a créé Cap Game et quand on a commencé à traiter de l'inclusion, par le jeu vidéo, donc le fait vraiment de regrouper les personnes qui étaient artificiellement séparées, discriminées, on avait vraiment cette envie de favoriser finalement une dynamique commune et donc de greffer les populations, notamment au travers de l'e-sport, donc des pratiques compétitives, sur les mêmes événements pour partager les mêmes moments avec les mêmes supports. Et de faire en sorte, matériellement, d'un point de vue organisationnel également, que tout ça puisse être réalisable. Alors j'en parle régulièrement, donc quand j'ai des prises de parole, j'ai pris une douille monumentale pendant une table ronde, il y a deux ans, trois ans maintenant, peut-être plus avec le Covid, par une personne qui est devenue une très proche amie maintenant, qui est Meyan Ngo, qui est la secrétaire générale de la Fédération française en e-sport, qui m'a expliqué que globalement l'inclusion c'était sympa, mais que des fois, elle-même étant en situation de handicap, elle avait envie de se retrouver avec ses pairs, donc des personnes qui étaient dans les mêmes profils, pour pas s'emmerder avec des différences de code, parce que la communication était plus fluide, parce que les environnements étaient partagés, et tout un tas de raisons qui s'entendent largement, et ça nous a fait un petit peu rollback par rapport à notre positionnement, et de dire en effet, l'e-sport tel qu'on l'envisage, bon, on peut l'envisager de manière inclusive, mais on peut aussi l'envisager de manière spécifique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dire qu'il y a des compétitions qui sont réservées à tel type de profil de joueurs et de joueuses, et de ne pas mélanger des personnes qui ne sont pas en situation de handicap avec des personnes en situation de handicap. Et qu'au final, on arrive à une proposition qui est large, et chacun fait son marché selon ses envies, selon le moment aussi. Peut-être qu'à des moments, on a envie d'être mélangé, de se confronter à d'autres personnes, et puis d'autres moments, on n'a pas du tout envie de s'emmerder, et on va rester entre nous, et ça va être très bien. Et c'est bien comme ça, en fait. Donc il y a une partie de mon cerveau qui est d'accord avec cette proposition. Et en même temps, compte tenu du chantier de l'industrie du jeu vidéo par rapport à l'accessibilité aujourd'hui, on a tendance à nous pousser ce besoin d'accessibilité, cette montée en compétence en accessibilité auprès des industriels du jeu vidéo. C'est important qu'il n'y ait pas de dichotomie entre le jeu vidéo pour les handicapés, en gros, et le jeu vidéo pour les valides. Et que l'industrie, aujourd'hui, comprenne que mettre en place des dispositifs à l'intérieur des jeux qui permettent à plus de personnes, et notamment à celles qui ont des capacités différentes, de bénéficier, de profiter des expériences de jeu, c'est important. Donc c'est vrai que ça dépend probablement de la zone ou du territoire sur lequel on va intervenir. Peut-être qu'en grand public, en effet, on a... cette possibilité double de faire de l'inclusif ou pas. Par contre, quand on a une action auprès de l'industrie du jeu vidéo, nous, on n'est clairement pas sur des aspects de « vous pouvez créer des jeux pour les non-voyants, ou pour les sourds, ou pour les dyspraxiques, si vous voulez, c'est cool, parce qu'ils aiment bien ça. » En fait, non. On est plutôt sur « faites en sorte que votre jeu-là que vous êtes en train de faire soit accessible pour tous les profils de joueurs et de joueuses, et que ça ne soit plus un sujet. »
Je peux me permettre, on est en tout. Moi, je partage tout à fait ce propos. En fait, moi, je m'adresse uniquement aux établissements culturels grand public. Et effectivement, l'industrie du jeu vidéo doit faire plus en matière d'accessibilité. C'est un enjeu important pour justement l'inclusion, mais c'est aussi pouvoir jouer entre amis, entre la famille, avoir des expériences voilà communes, comme tout à chacun. Donc, c'est primordial que l'industrie du jeu vidéo intègre ça et cette notion d'accessibilité et mettre les moyens de développement en développement de l'accessibilité dans ces jeux grand public. Ça, c'est un axe, l'autre c'est un autre axe, et voilà, ce sont des batailles différentes peut-être à mener, je ne sais pas, sans doute qui se retrouvent après dans nos établissements culturels, mais c'est primordial, je suis tout à fait d'accord.
Alors, je vais essayer de compléter. Excusez-moi, je vais essayer de compléter, effectivement. En fait, à la bibliothèque Vaclavavel, on a plein de jeux, à peu près 800 titres hein, de jeux vidéo qui sont proposés. Et souvent, les personnes qui viennent, qui empruntent des jeux, sont souvent les mêmes, souvent les grands publics. Donc souvent des jeux de sport, de football, des jeux de voiture, c'est souvent les mêmes titres qu'on retrouve à chaque fois. Et donc, on se demandait comment attirer vraiment tout le monde, en fait, avec des jeux qui sont plutôt des jeux indépendants, un peu plus intimes, et qui seraient pour autant hyper intéressants. Et qu'on donne aussi la découverte et le goût, c'est quand même aussi ça notre métier de bibliothécaire, donner envie de découvrir autre chose. Et justement, dans ces lives-là qu'on a fait, qui sont justement accessibles à tous, on essaye de parler de ces jeux-là, et avec mon collègue, on essaye justement d'évaluer ces jeux-là, les tester, mais de savoir pour qui ils s'adressent, pour quel type de profil, et de voir également, par exemple, le voyage Journey, pardon pour mon accent qui se passe dans le jeu. Et vous savez, c'est un jeu où on se balade vraiment très immersif dans un paysage un petit peu idéal. Est-ce qu'il y a des sous-titres, mais sont-ils accessibles ou pas? Parce que c'est marqué qu'il y a des sous-titres, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce que, par exemple, tous les sons du jeu sont représentés visuellement ou est-ce que c'est que les sous-titres de dialogue? Est-ce que la musique est intéressante dans le gameplay, justement? Est-ce que quand on se promène, on peut comprendre tout ce qu'il se passe ou pas? Et en fait, ça, c'est des tests qui sont nécessaires de faire. En effet, la notice bibliographique est importante pour moi pour qu'elle puisse vraiment accéder à tout ça. Après, on discute avec des titres qui sont moins connus et on les teste à chaque fois. Et parfois, c'est aussi les joueurs eux-mêmes qui nous informent sur certains tests qu'ils ont faits et on a des compléments d'informations qu'on peut vraiment agglomérer pour avoir enfin une connaissance du jeu. Mais quand on essaie de préparer, il y a tellement de jeux et tellement de titres qui existent que c'est vraiment une vraie recherche à chaque fois qu'on essaie de faire pour proposer des jeux pour tous, en fait.
David, merci, parce que bon, tu rebondis sur, je pense, une des clés principales qui est l'information. On en a parlé avec Carole, donc l'information qui peut être trouvée via les notices bibliothéconomiques, mais je pense que l'information à destination des personnes en situation de handicap sur ce qui existe au niveau des jeux vidéo, c'était aussi un des premiers axes de travail de l'association Cap Game. Et toi, donc, David, tu nous dis voilà, comment ça se passe en live dans ton travail de tous les jours. Mais si je me mets à la place d'un bibliothécaire qui, effectivement, aime les jeux vidéo et voudrait les faire partager à un public élargi comme le veulent nos missions, puisqu'on doit s'adresser à tout public, par où commencer? Parce que, justement, Cap Game est une très très bonne ressource. Moi, j'ai regardé la vidéo solution sur Assassin's Creed Valhalla, pardon, mon accent. Niveau level, il y a du level parce que là, on se rend compte qu'il faut à la fois parfaitement maîtriser le jeu, donc dans toute sa diversité, comprendre tous les paramètres de l'accessibilité. Enfin, déjà vérifier si ces paramètres sont accessibles aux personnes en situation de handicap et après les tester. Comprendre avec quel dispositif on peut les faire fonctionner. Et surtout avec quel matériel les proposer à telle personne, puisqu'on sait aussi que chaque personne en situation de handicap est différente et aura des besoins différents. Donc si on parle juste de ce constat, alors peut-être un peu trop formel et dans l'idéal, ça peut déjà, à défaut de refroidir, déjà montrer toute la complexité. Donc comment, en tant que bibliothécaire dans un pôle multimédia ou dans un espace, comment on peut mettre en place un vrai accueil des personnes en situation de handicap?
Alors, pour essayer de répondre à la question, je vais essayer de ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'on avait depuis 2013 finalement mis en place le salon jeux vidéo. C'est le seul à Paris qui existe dans les bibliothèques municipales. Donc on a à peu près 70... 70 bibliothèques, dans tout le secteur de la ville de Paris. Et donc, c'était le seul qui accueillait, justement, dans ce salon jeux vidéo. Et on voulait offrir à tous les publics, on voulait que ce pôle jeux vidéo devienne aussi une médiation numérique et un pôle de réflexion sur comment travailler avec ce jeu et comment proposer à, justement, tous les publics une aventure accessible, je dirais. Et donc, effectivement, ce par quoi on a commencé, c'est que déjà, on a... travailler avec les habitants du quartier, j'en parlais tout à l'heure, puisque c'est des habitants qui ont souvent peu de moyens, un quartier assez populaire, et donc quand ils viennent sur place, c'est aussi pour utiliser ces jeux qu'ils n'ont pas les moyens forcément de s'acheter. Il y a aussi des personnes qui ne parlent pas forcément français, qui ne sont pas francophones, qui n'ont pas accès à la lecture ou à l'oral forcément, donc du coup, c'est intéressant de voir aussi dans quelle mesure les jeux sont accessibles, en termes de mots français, en termes de gameplay, etc. On a travaillé aussi justement avec les personnes handicapées mentales, avec les IME avec lesquelles nous sommes partenaires, et c'était intéressant aussi de travailler avec eux dans le sens où comment ils découvrent le jeu. Lorsqu'on les accueille dans la salle, il faut imaginer donc que c'est vraiment, on est en partenariat avec vraiment un IME. Donc c'est des personnes qui vont de 6 à l'adolescence à peu près en termes de profil, donc on les accueille, évidemment c'était avant Covid tout ça malheureusement, donc lorsqu'on les accueillait pour jouer, on leur proposait certains titres, mais il fallait aussi adapter à eux ce qui leur plaisait. Par exemple, on a travaillé sur Mario Kart au départ, et on s'est dit Mario Kart ça peut être intéressant, c'est un jeu où on peut facilement être à l'aise avec les mouvements du corps par exemple, c'est un jeu qui peut être accessible. C'est Nintendo Switch, par exemple. qui avait proposé ça. Et le problème, c'est que les manettes étaient petites, mais il y avait des volants qu'on pouvait accrocher avec la Wii d'avant. Donc, en fait, on essayait aussi de chercher des choses accessibles en termes de matériel. Donc, les volants étaient beaucoup plus confortables pour tout le monde, parce que là, le vrai volant de vraiment conduire une voiture a pu donner le plaisir de la sensation de conduire une voiture dans le jeu. Pour ces personnes-là, ça a fonctionné. Donc, c'était que des tests avec eux. Et on ne voulait pas les laisser qu'ils soient déçus, en fait, tout simplement, leur aventure sur Mario Kart. Donc, on s'est dit, bon, très bien, ça, ça marche sur Mario Kart. Après, il y a des jeux où on s'est dit, oh, ça va peut-être être un peu compliqué, ils vont être trop déçus, la motivation va disparaître, c'est dommage, mais on les a testés. Et c'est vrai que de toute façon, en tant que bibliothécaire, en plus, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une personne référente, de ne pas avoir des personnes qui changent en permanence, mais avoir vraiment une personne qui connaît le public, qui travaille avec eux, et eux aussi, ils connaissent le profil de la personne. Ils ont leur habitude aussi, ils sont à l'aise quand elle arrive, ça évite les confusions de communication, les confusions de comportement. C'est aussi important de garder un rythme, par exemple, c'est des petites choses, mais c'est ce qui entoure aussi la pratique du jeu vidéo. Et donc là, par exemple, quand on va reprendre nos activités, l'idée, c'est de préparer vraiment ça avec eux, en fait, en co-construction, et aussi de voir quelles expériences ils veulent vivre. Et en plus, ils auront sûrement changé depuis avant Covid, donc c'est comme ça qu'on travaille.
Je voulais revenir... J'ai pris plein de notes, c'est l'enfer. Je voulais revenir sur la notion d'accessibilité. En fait, le terme accessibilité, si on met rien derrière, ça veut rien dire. Enfin, ça sert à rien surtout. Et ce qui revient après ce que tu disais tout à l'heure sur la complexité finalement de l'accessibilité et des paramètres qu'il faut maîtriser pour voir dans quelle mesure ce jeu est accessible. Et en fait, si on considère pas une population cible dès le départ. On ne peut pas se rendre compte si le jeu est accessible ou pas. Tout ça pour dire qu'un jeu qui sera accessible, par exemple, pour des personnes en situation de handicap moteur, ne le sera peut-être pas pour des personnes sourdes ou des personnes déficientes visuelles. Et donc, si on considère une notation ou une évaluation globale du jeu, elle n'aura pas de sens. Ce qu'il faut bien identifier, c'est la population cible à qui on s'adresse. Et ensuite confronter finalement les dispositifs et les blocages qui existent à l'intérieur du jeu ou à la manière dont on peut le déployer pour voir à quel niveau finalement d'utilisabilité on arrive pour cette population cible. Et finalement la complexité de la démarche, c'est que la diversité de cette population cible, elle peut être très importante, voire infinie, et que ce travail peut paraître complètement infaisable. Donc l'idée, c'est probablement de prendre les choses petit à petit et d'essayer de cibler finement à qui on va s'adresser pour donc évaluer cette accessibilité qui peut être donnée par des dispositifs qui sont dans le jeu. On a des capacités de régler des choses ou de changer certaines choses, ce qui va faciliter l'utilisation d'un jeu. Ça peut être donné par le type d'environnement qu'on va mettre autour du jeu, matériel par exemple, est-ce que je peux brancher des manettes différentes ou des dispositifs d'interaction, de contrôle différents qui vont permettre à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les dispositifs classiques d'être plus confort et de pouvoir bénéficier d'une expérience qui sera meilleure. J'ai un troisième truc qui était en tête. On l'oublie, bref. Donc le paramétrage est important et le ciblage de la population est important. Ça évitera du coup de se confronter à cette complexité, à cette quantité grandissante de paramètres qui va de plus en plus apparaître dans les jeux vidéo et de pouvoir commencer à organiser le travail et de se dire ok, là on a des réglages qui sont plutôt favorables à rendre plus confortable des utilisateurs en situation de handicap moteur. Commençons à travailler là-dessus et puis après on voit si d'autres paramètres peuvent servir à d'autres types de profils. Et comme le disait David, avec l'expérience des personnes qui viennent sur place, les enrichissements mutuels, éventuellement la co-construction ou des connaissances à minima, on va faire évoluer la proposition. Plutôt que de l'accessibilité ou de la situation de handicap, nous on a pris l'habitude de parler de capacité, enfin, je l'ai déjà utilisé dans les premières phrases, capacité des personnes. On va plus se centrer sur quelles sont les capacités d'une personne et qu'est-ce qu'on peut mettre en regard de ses capacités par rapport à une situation de jeu donnée. Et comment on va adapter ou maximiser finalement ses capacités pour donner un accès à une expérience de jeu. Et on parle plus largement de niveau de confort finalement. Ce qui permet de traiter ce qu'on appelait dans l'ancien monde l'accessibilité, on est encore dans l'ancien monde, l'accessibilité vers une démarche qui s'adresse à tous et à toutes, puisque le niveau de confort, moi, peut-être que j'ai envie de jouer d'une main parce que de l'autre main, j'ai ma bière pendant que je joue. Et qu'un jeu qui se joue à une main avec une bière dans l'autre, c'est quand même un bon kiff. Et ça marchera aussi pour une personne qui n'a l'usage que d'une seule main. Et là, il n'y a plus de situation de handicap, il y a juste une configuration confortable qui va être pertinente pour une, deux, dix, des milliers de personnes qui sont différentes, mais on s'en fout finalement de l'origine de cette différence. C'est juste qu'on a envie de jouer de telle manière ou qu'on peut ne jouer que de cette manière, dont acte. Travaillons là-dessus. Le point que je voulais soulever tout à l'heure m'est revenu, donc la typologie du jeu est aussi importante. Là, on parlait de Mario Kart, c'est un jeu de conduite automobile qui va avoir, qui va avoir un nombre d'interactions relativement limité dans le jeu. Globalement, les jeux de bagnole, on tourne à gauche, on tourne à droite, on accélère, éventuellement on freine, mais c'est triché. Ça va. Quand on passe sur des shooters à la première personne, type Call of Duty, Battlefield, Fortnite, on est sur des environnements très ouverts, multijoueurs, en 3D, en temps réel, avec des armes très différentes, des interactions très différentes, avec différents objets du jeu, avec différents véhicules, avec différents bâtiments, etc. Et donc c'est vite l'enfer en termes de contrôle. Et tous les contrôles sont également importants. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut difficilement se passer d'une partie d'entre eux pour pouvoir être compétitif dans le jeu et pas se faire défoncer tout de suite. En fait. Du coup, le choix du jeu est important aussi par rapport à son niveau d'accessibilité. Et ça, indépendamment de l'utilisateur ou de l'utilisatrice qu'on va analyser juste derrière.
Oui, et si je peux ajouter juste un petit quelque chose à ce que vient de dire Jérôme, c'est vrai que la terminologie d'accessibilité n'est pas forcément toujours adaptée. Même la terminologie d'inclusion, effectivement, ce sont des mots. Finalement, on parle de quoi ? On parle de l'adaptation à un profil, on parle de l'adaptation à tous, mais quel terme employer pour résumer tout ça ? C'est une vraie question.
En fait, je me posais déjà la question, ou ça m'a déjà un petit peu chatouillé sur la table ronde précédente où le mot accessibilité a déjà été utilisé. Et on n'était pas forcément sur de l'accessibilité en regard de situations de handicap ou de blocage. On était sur de l'accessibilité. Est-ce que je peux télécharger le jeu ou est-ce que je sais où il est ou est-ce que je peux y jouer chez moi, etc. Donc on a vraiment un flou artistique, c'est pas choquant, hein, autour de cette terminologie, mais qu'il est nécessaire de faire évoluer au moins dans les concepts qu'on manipule. Et c'est pour ça que la notion de capacité et de confort va permettre d'être plus centré utilisateur que centré sur une idée qui peut avoir des acceptions différentes.
Merci à tous les deux, parce que du coup, vous répondez en partie à la question de Yasmina, et puis surtout, vous ouvrez la perspective très, très, très longue de la conception universelle qui s'applique, que l'on soit dans le monde réel ou dans le monde numérique. Finalement, dès qu'on parle de handicap, à un moment ou à un autre, on se retrouve confronté à cette notion qui est à l'origine, est-ce qu'on a pensé à tout le monde, pour ne pas réemployer le terme d'accessibilité. Et effectivement, la notion d'usage et de confort est bien plus pertinente parce qu'elle permet aussi de dépasser certaines règles qui, même si on les applique, en fait, ne suffisent pas. Voilà, donc petit aparté, Nathanaël voulait du théorique, on va arrêter là. Je voulais aussi, tout à l'heure, en aparté avec Jérôme, on parlait de dispositifs beaucoup plus précis, et là j'aimerais qu'on entre un peu plus dans cette thématique-là qui est vraiment d'appliquer, enfin d'adapter le monde du jeu vidéo au handicap. Et tu me disais qu'à ce moment-là, il fallait aussi s'entourer de compétences autres, notamment les ergothérapeutes, qui peuvent être une aide très précieuse pour comprendre quels sont les meilleurs dispositifs à mettre en œuvre. Et peut-être, alors là, après, on ouvre aussi une autre porte, qui est celle de la recherche et développement, mais aussi de tout le travail qui peut être fait avec les Fab Labs. Là, je me tourne vers la Cité des Sciences, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau-là. Où en est-on, en fait, on n'est plus au stade des précurseurs, mais de ces avancées qui, le nom m'échappe, mais tu vas bien sûr le retrouver. C'est le papa qui a créé les manettes pour son beau-fils.
David Combarieux, de Handy Gamer.
Voilà, Handy Gamer. Qui d'une idée individuelle, a fait tache d'huile. Donc on va rester sur cette thématique de l'adaptation et de la finesse, en fait, du travail qu'il faut faire avec chaque profil. Si vous le voulez bien, après on on reviendra aussi sur une notion très importante qui est celle de l'information et que Carole avait commencé à dévoiler.
Oui, alors pour remettre un petit peu de contexte, la discussion qu'on avait tout à l'heure avant, en préparation, c'était de voir dans quelle est finalement l'action, quel pourrait être le rôle d'un espace culturel vis-à-vis de ces questions de jeux vidéo, d'accessibilité, slash confort, slash capacité, vis-à-vis du public, et la difficulté finalement de contenter un utilisateur ou une utilisatrice qui va avoir un profil particulier pour lequel on n'aura pas forcément de réponse directe pour pouvoir le ou la faire jouer, sauf à avoir des compétences illimitées en adaptation de type ergothérapeute, d'avoir un stock de matériel infini pour avoir le nombre de boutons ou le nombre de pédales ou le nombre de pailles ou de trucs qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir faire jouer ce profil de personne, et puis pouf, dès qu'on a une autre personne, de devoir réadapter de manière différente le dispositif parce que les capacités ne sont pas les mêmes, tout simplement, le profil n'est pas le même, le jeu n'est pas le même, et donc la complexité de pouvoir vous répondre concrètement, bah voilà, le kit de départ pour déployer du jeu vidéo accessible dans votre établissement, c'est ça, et ça je ne peux pas le faire. Par contre, je pense que l'importance de votre action pour diffuser et toucher des publics qu'on pourrait louper par d'autres canaux, elle est fondamentale. On a besoin de donner à comprendre, donner à voir que le jeu vidéo aujourd'hui est de plus en plus accessible. Et ce n'est pas forcément dans vos établissements qu'on va trouver la solution précise pour un type de jeu particulier, un profil de jeu particulier. Mais par contre, c'est dans vos établissements qu'on va pouvoir trouver les informations de ah oui, tiens, Nintendo fait des trucs pas très accessibles, ah oui, tiens, Xbox est beaucoup plus accessible, ah oui, PlayStation, bon, on sait pas bien, on comprend pas ce qu'ils font. Et globalement, ça permet d'avoir une vision objective du territoire à un moment donné, et de voir vers qui se tourner aussi en termes de compétences professionnelles. Les ergothérapeutes sont les personnes dédiées finalement à l'adaptation de la vie quotidienne, des actions de la vie quotidienne à des profils de personnes qui sont en situation de handicap, et le jeu vidéo en fait partie. Des associations comme Capgame, mais on n'est plus tout seul maintenant, effectivement on a parlé d'HandiGamer, qui sont susceptibles aussi de répondre à tout ou partie de questionnements ou de besoins en matériel ou en logiciel qui permettraient d'augmenter cette accessibilité ou d'augmenter ce confort de jeu. Et donc vous êtes des points de rencontre pour moi qui sont incontournables, qui sont fondamentaux, qu'il faut absolument déployer, systématiser, cloner pour faire en sorte que les personnes qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de solutions puissent savoir qu'elles existent et où les trouver.
Oui, et si je peux ajouter un complément par rapport à ce qui vient d'être dit, ça dépend aussi de cette réflexion-là aussi sur le site, sur où accueillir. Je trouve effectivement que l'atelier Vaclav Havel, l'événement qu'on organise le 2 octobre, ça permet par exemple aussi de voir à chaque public, donc c'est pas forcément que pour les publics empêchés, pour les publics en situation de handicap, c'est pour tout le monde en fait, pour pouvoir réfléchir à et sensibiliser tout le monde par le jeu, concrètement par l'action, de pouvoir se dire un public qui n'est pas en situation de handicap puisse se rendre compte, ah oui, il y a d'autres manières de jouer, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres dispositifs, il y a d'autres matériels. Et c'est cette adaptation à tous les publics qui effectivement est toujours un travail de longue haleine et qui n'est jamais fini, et qui est intéressant de pouvoir aussi se rendre compte de la part du public qui n'est pas en situation de handicap et qui pourrait peut-être amener d'autres idées, d'autres réflexions, un regard complémentaire, pourquoi pas.
Et justement, David, toi, avec Vaclav Havel, est-ce que vous avez du matériel type Logitech ou l'adaptatif contrôleur de Microsoft? Je te vois sourire. Ou alors j'ai retrouvé le nom, c'est Itclick,
non.
Le papa qui...
Non, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas ce matériel. Effectivement, on travaille en partenariat avec l'association Capgame, justement, pour le sujet du matériel, parce que je ne sais plus quelle est la marque du matériel dont on... Le GZAC, c'est ça je crois que c'est ce matériel-là. Effectivement, qui permet d'avoir une adaptation généraliste, finalement, pour tout le matériel. Et donc, c'est quelque chose qu'on a expérimenté et qui fonctionne bien. Et donc là, on a pour projet de pouvoir... essayer de flécher un budget d'ici un an ou deux ans pour pouvoir acheter, nous, ce matériel et l'avoir en interne pour accueillir le public.
Est-ce que tu peux redonner le nom? Parce que je pense que ça pourrait intéresser les collègues des bibliothèques qui nous écoutent. Le nom du fournisseur, le nom du matériel avec lequel vous allez travailler.
Ah, bah, je vais laisser Jérôme.
C'est Microsoft, c'est l'Xbox Adaptive Controller. Donc c'est une manette qui ressemble à...
C'est ça, oui.
Qui ressemble à une... des plaques chauffantes. Selon la génération, c'est soit des plaques chauffantes, soit une platine de DJ. C'est une manette qui est reconnue comme une manette standard pour la console et pour le PC. Et en revanche, qui va permettre de remplacer n'importe quel contrôle de la manette originale, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près 18 ou 19, par un dispositif différent. Donc chaque bouton, chaque stick est traité indépendamment des autres et peut être remplacé par un bouton qu'on va positionner près de la tête, par exemple, si la tête est un... si la personne a une mobilité suffisante de la tête et une mobilité moindre, par exemple, des membres supérieurs. C'est un hub, finalement, où on va pouvoir proposer une infinité de configurations parce que chaque bouton va pouvoir se brancher, enfin chaque truc qu'on va mettre à la place d'un bouton va pouvoir se brancher en mini jack. Donc c'est une connectique complètement classique, hein, mais qui est utilisée universellement dans le domaine des aides techniques pour le handicap. Et à partir de là, et on fait peut-être la liaison avec les Fab Labs, brancher un jack, au cul du jack on met deux fils, et au bout des deux fils on met ce qu'on veut. J'aime raconter cette anecdote. Quand on a touché la première fois ces plaques de cuisson de DJ, on n'avait pas de bouton à brancher derrière. Donc on a arraché les câbles de casque audio classique, on a dénudé les fils et puis on a joué en faisant se frotter les fils un peu comme des voleurs de voiture à un jeu de foot. Et c'était très drôle. C'est là qu'interviennent, à mon avis, que doit intervenir finalement ce passage de relais vers des structures de type Fab Lab, mais pas seulement, qui peuvent réfléchir à qu'est-ce qu'on met au bout de ces deux fils et qu'est-ce qu'il est optimal de concevoir, d'imaginer, de designer, de proposer, idéalement en co-construction avec les utilisateurs et les utilisatrices, pour maximiser finalement l'utilisation de ces capacités et puis donner un niveau de confort optimal dans la pratique des jeux vidéo.
Mais alors justement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, aussi sur ce que disait David. Également Carole avec l'idée de cataloguer, hein, les jeux vidéo. David, toi tu fais des observations avec la Vavel justement sur comment ça se passe avec tel joueur, avec tel jeu, enfin, vous découvrez des choses. Jérôme, tu nous parles donc d'expérimentation. Comment on peut centraliser toutes ces infos et vers qui les faire remonter? Est-ce que par exemple Game Lover serait un bon vecteur de... de communication, ou alors je sais que toi, Carole, tu parlais, et ça rebondit aussi sur la conférence qui avait eu lieu en 2019 à la Cité des Sciences, d'un codex qui permettrait de recueillir toutes les infos à la fois type guidelines pour l'accessibilité, mais aussi en pratique, et ce qui pourrait être un référentiel riche, du coup, tant dans la connaissance des jeux que dans, après, ben, les procédures et l'expérimentation.
Ce qui pourrait être intéressant, en fait, dans le cadre de la mission RECAL et à réunion des établissements culturels et accessibles, il y a une mission qui vient juste d'être mise en place, en fait, de réfléchir à une plateforme de mutualisation entre les établissements culturels et accessibles. Donc, il y a une personne qui vient juste d'arriver, qui est en alternance et qui travaille sur ce sujet. Donc, elle reviendra vers les établissements pour voir quels sont les besoins, quelle est la pertinence, qu'est-ce qu'on met en place, qui héberge, etc. Peut-être que la RECA, en tant que mission, pourrait s'approprier cette question de recenser toutes les initiatives, tous les tests qui sont faits pour que les établissements culturels qui n'ont peut-être pas les moyens qu'ont nos établissements de faire des tests, mais simplement, eux, ils voudraient pouvoir savoir quelle sélection ils peuvent faire de jeux pour avoir une offre la plus inclusive s'ils veulent développer une offre autour du jeu vidéo et qui soit ouverte à tous. Sans doute qu'une plateforme dans le cadre de la mission RECA, pour être un point d'entrée en fait, pour les établissements culturels, pour essayer de regrouper un petit peu toute cette information qui est quand même assez dense, riche. Il y a plein de choses qui se font. Et faire des choses, c'est bien. Le faire savoir, c'est une autre chose. Et que le public, in fine, le sache, c'est encore autre chose. Donc il faut vraiment travailler sur toutes ces étapes-là. Et je pense que le RECA... Alors, si ça aboutit, ce travail de réflexion, etc., peut-être que ça pourrait être au moins un des points d'entrée intéressants, en tout cas pour les établissements culturels.
Alors moi, juste, il me semble... Enfin, la RECA, elle est quand même très tournée musée.
Il n'y a pas que des musées. Il y a effectivement des musées, mais il y a aussi des bibliothèques. Donc, et on peut très bien... Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas sur cette mission-là, mais... on peut imaginer que si c'est une plateforme, donc c'est un site web, et que le site web soit consultable à la fois par le public, in fine, et par les professionnels. Donc il peut y avoir une entrée ouverte à tous, et ce serait sur cette entrée-là que les publics ou des professionnels, même s'ils ne font pas forcément partie de la RECA, puissent trouver l'information, en fait. Je pense que là, on est vraiment au tout début. La personne qui travaille sur ça vient juste d'arriver. Ça fait une semaine, donc il faut lui laisser le temps de faire déjà son enquête pour savoir quels sont les besoins et qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Mais en tout cas, sur le jeu vidéo, avoir un lieu, alors pas unique, mais au moins un lieu qui recense toutes les initiatives qui sont mises en place, ça me paraît essentiel. C'est difficile, on ne peut pas demander à un professionnel de bibliothèque ou de musée, ou enfin, peu importe, d'un établissement culturel, d'aller sur le site de Cap Game, d'aller à Vaclavavel, d'aller je ne sais pas où, pour essayer de trouver une information, essayer de savoir qu'est-ce que je vais mettre en place quand c'est des petites équipes, quand ils n'ont pas les moyens humains ou matériels de faire ce que peut-être d'autres établissements sont en capacité de faire. Donc, si on veut que ça se diffuse partout et que, faut que nous, on mette en place des outils qui leur permettent de trouver l'information à un seul endroit.
Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement, concernant l'idée d'une plateforme, et effectivement, la RECA, moi, j'avais plutôt en tête que c'était orienté davantage pour tout ce qui était musée, et je m'étais dit, pourquoi pas, effectivement, des sites, mais directement dans les éditeurs, les créateurs de jeux vidéo, en fait, que ce soit, par exemple, Xbox, Microsoft, qui pourraient mettre eux-mêmes dans leur plateforme. Je pense que ça serait, plutôt que de perdre aussi beaucoup de temps, enfin, faire tous ces testings, d'avoir quelque chose par les éditeurs de jeux vidéo, déjà proposé dans la démarche de commercialisation ces informations.
Ouais, je suis d'accord. Non, en vrai, c'est compliqué. Les éditeurs, ils commencent à avoir une conscience et un souhait de diffuser en effet des informations quant aux réglages qui relèveraient de leur point de vue de l'accessibilité de leur jeu. Ce qui est un très bon point de départ, ce qui sera à mon avis pas suffisant parce que le contexte d'utilisation, notamment dans les établissements culturels, est différent d'un contexte d'utilisation au domicile. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire, même si parfois on ne demande pas les autorisations pour déployer des jeux ou utiliser des jeux. Il se trouve que il va manquer des informations de contexte, contextualisées, pertinentes, pour avoir une proposition publique. Peut-être qu'également les informations qui seront données par les éditeurs seront le point de vue de l'éditeur par rapport à ce sujet-là et pas le point de vue du professionnel de l'action culturelle sur ce sujet-là. Et les éditeurs, il y en a pas mal quand même, en vrai. Et si on doit trouver un jeu qui est, par exemple, simple d'utilisation et accessible à des personnes dyspraxiques, comment on fait ? Est-ce qu'on va se palucher tous les sites de tous les éditeurs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est coché dyspraxique, si tant est qu'il sache ce que ça veut dire, et qu'il l'ait mis dans ses trucs d'accessibilité. Donc après, c'est mon avis de novice, mais la proposition d'avoir un site qui agrège toutes les initiatives qui ont été tentées, déployées, réussies ou non, dans les établissements culturels, et qui soient partagées pour les établissements culturels, et plus encore, me paraît pertinente parce qu'on peut finalement, sur quelque chose qui a marché, le reprendre tel que et le copier. On voit du coup quels sont les besoins, acheter quel jeu, acheter quel matériel, acheter quelle console. Si on l'a déjà, c'est cool, il n'y a plus qu'à compléter avec ça. Sur les expérimentations qu'on foirait, c'est bien aussi parce que ça permet de ne pas les recommencer. Et dès lors, ça permet aussi, si ce site est accessible au grand public, qu'une personne est fan de FIFA et qu'elle souhaite savoir où jouer à FIFA, elle peut aussi mapper avec où est-ce qu'il y a du FIFA accessible en France, dans ma région, dans mon département, dans ma ville. Et ça peut être aussi un service complètement indirect, mais qui a une plus-value forte.
Mais justement, on parle des éditeurs. Depuis la fameuse loi américaine, attention, je me lance, 21st Century Communication and Video Accessibility Act. Merci. Est-ce que ça a changé la donne au niveau communication sur les capacités des jeux, puisque donc tous les jeux qui se vendent sur le territoire, au moins des États-Unis, sont censés être accessibles. Est-ce que ça, voilà, est-ce que ça a eu un effet, une vague qui s'est déportée jusque chez nous, où on en est toujours finalement au même point, c'est-à-dire qu'une personne handicapée qui veut acheter un jeu doit se débrouiller par elle-même pour avoir les infos, pour savoir si ce jeu est accessible, et bien souvent, enfin, la seule manière, c'est d'acheter le jeu et de tester par soi-même.
En vrai, en termes de communication et de diffusion de l'information qui relève de l'accessibilité, on est toujours très bas et les choses progressent, mais ça avance pas trop vite. Ce que la loi américaine a provoqué, c'est une grosse contrainte qui a permis aux éditeurs de ne pas avoir le choix de commencer à intégrer des réflexions autour de l'accessibilité dans leur produit. Pour faire très rapide, parce que je ne suis pas juriste non plus, la loi dit n'importe quel bazar qui va être vendu sur le marché américain doit être à un minima accessible. Et derrière le à minima accessible, il y a quatre critères que j'oublie systématiquement, mais dont qui est quand même des dispositifs qui soient identifiés en tant que dispositifs d'accessibilité. Et un des quatre autres, c'est avoir intégré et échangé et travaillé avec des personnes en situation de handicap dans la conception de ce truc. Derrière truc, vous mettez ce que vous voulez, c'est un produit, un service, un logiciel, peu importe. Sinon, si vous voulez le vendre et que vous ne faites pas ça, vous allez prendre des douilles à l'américaine avec des fees, des pénalités qui sont chiffrées, qui sont du vrai argent. Du coup, là, les industriels du monde entier, du coup, ont commencé à réfléchir différemment parce que d'une part, on parlait du marché américain et d'autre part, on parlait de pénalités financières. Donc ça a eu un effet plutôt positif sur leur capacité à comprendre ce qui relevait de l'accessibilité. Et c'est pour ça qu'on est dans une belle dynamique aujourd'hui. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons, celle-ci fait probablement partie des mauvaises, mais au moins ça marche. Donc les gens se sont mis en marche, les gens ont compris, commencent à s'intéressent de plus en plus. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est plutôt, ils sont plutôt en demande de savoir-faire. C'est par quel bout on prend le truc. Un peu comme vous dans les établissements, c'est par quoi on commence. Et eux, c'est pareil. C'est qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire de l'accessibilité qui relève de la déficience visuelle ou du moteur et comment ça se fait et quoi ? Donc y a un gros chantier qui a démarré avec les échéances du CVA. Donc qui date de 2018-2019 en gros. Et là, toute l'industrie, les petits, les gros, les moyens, se met en ordre de marche pour essayer de s'aligner avec ces nouvelles contraintes. Alors pour info, l'Europe est en train de travailler sur une législation qui serait la petite cousine ou la petite sœur de celle-là, donc ça devrait arriver aussi localement. En termes de com, en revanche, c'est toujours aussi pauvre parce que ils peuvent pas tout faire non plus. Pour une fois, je prends un peu la défense, profitons-en. Ils ne peuvent pas tout faire non plus. Il y a des efforts. Les plus gros sont capables de mettre aussi des efforts sur la communication. Ubisoft, par exemple, Electronic Arts, sont capables, par jeu, de dire voilà ce qui relève de l'accessibilité de notre point de vue. Vous trouverez ça, vous ne trouverez pas ça, pas ça, pas ça. Donc, ils ont fait ça pour un certain nombre de jeux. Je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre de jeux qui ne cochent aucune case sur l'accessibilité, parce qu'encore une fois, on est au début de la démarche. Mais globalement, l'information manque encore aujourd'hui. C'est pour ça que notre partie testing de Cap Game, feu Game Lover, continue d'être pertinente, puisque les utilisateurs et utilisatrices finaux ne bénéficient pas de canaux d'information quant à l'accessibilité qui soient identifiés, pertinents, uniques, efficaces. On travaille sur ce sujet avec le SEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, ce qui nous permet d'envisager, idéalement à court terme, une nomenclature qui relèverait des questions d'accessibilité qu'on pourrait comparer à PEGI. Le PEGI qui permet de dire, attention, c'est interdit au moins de 3 ans, au moins de 7, au moins de 13, 16, je ne sais plus. Donc d'avoir des catégories d'âge et des motifs d'exclusion de certains âges par rapport à du contenu. L'idéal serait de pouvoir avoir une première proposition associée à chaque jeu qui permette de décrire finalement les situations de blocage et les solutions d'accessibilité qui sont présentes dans chacun des jeux et du coup éviter que tout un tas de personnes achètent le jeu en ne sachant pas ce qu'il y a derrière et arrivent chez elles, essayent de l'installer, enfin d'ouvrir la boîte déjà. Si elle arrive à ouvrir la boîte, essaye de l'installer. Si elle arrive à l'installer, essaye de le configurer. Et si elle arrive à le configurer, essaye d'y jouer. Généralement, quand on est sur des populations en situation de handicap, les premières étapes font qu'ils ont des mètres linéaires de jeux auxquels ils ne jouent pas, et puis quelques jeux auxquels ils jouent parce qu'ils sont arrivés à y jouer au final. Donc on a un gros boulot à faire sur les canaux d'information.
Et d'après ce que tu dis aussi, un des critères, c'est donc la participation de personnes handicapées à la conception des jeux. Là, on est encore une fois dans la notion de conception. Des joueurs professionnels, d'ailleurs, c'est réclamé par les personnes handicapées. Je me fie au baromètre déployé par BePlayer One en 2000. C'était un des leviers réclamés par les personnes handicapées pour que les jeux soient enfin accessibles, c'est-à-dire qu'on leur demande leur avis. Et là, je rebondis sur ton expérience, Carole. Finalement, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre un atelier de création de jeux ? Alors, Thomas Gaudy est parti au Canada, ça ne simplifie pas la donne, mais je pense qu'il s'est peut-être dupliqué. Parce qu'en fait, ce qui remonte aussi de vos expériences, que ce soit donc Evil Blind, toi c'était Blind Zombie.
C'est très zombie en fait, a priori.
Et puis, il y avait aussi Blind Legend qui finalement a été, au-delà même puisque c'était du financement participatif, donc aussi une forme de coopération. Est-ce que ce genre d'atelier pourrait être reproduit et surtout avoir une suite vers une production un peu plus élaborée ?
Sur l'expérience qu'on a fait, on ne l'a fait qu'une fois. C'était vraiment... c'était de proposer autre chose que simplement venir jouer ou visiter une expo. On voulait faire participer le public. Alors pour le coup, le public... déficient visuel en lien avec la salle Louis Braille. Donc c'était vraiment une expérience unique. Est-ce qu'elle est reproductible en tant que telle comme faire participer le public d'une bibliothèque ou d'un établissement culturel sans problème, il suffit de mettre en place un projet en disant qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle durée, quel est l'objectif, et est-ce qu'on veut un public mixte, un public spécifique, enfin peu importe, mais c'est tout à fait jouable. Moi, de mon souvenir, pour monter cet atelier, on a eu un budget de 2 700 euros pour faire cet atelier de 2 jours et demi. Thomas a beaucoup travaillé le soir chez lui pour faire la programmation. Puisque pendant les 2 jours et demi, on n'a pas pu tout voir. Ce qui était important, c'était de voir les différentes phases de création d'un jeu vidéo et puis quels questionnements on peut se poser pour pouvoir jouer, créer le jeu, etc. Donc ça, je pense que c'est... Enfin, on peut refaire un atelier comme ça, je pense, dans les établissements culturels, sans problème. C'est vraiment un projet simple. Et puis nous, on n'avait pas d'objectif derrière de créer un jeu complet ou après de commercialiser ou pas, ou de distribuer. Enfin, c'était une offre d'atelier comme une offre de médiation, en fait.
Oui, on pourrait peut-être dévoyer certains étudiants des écoles... Le jeu vidéo, je sais pas, là je laisse la parole.
Oui, complètement. Alors nous, on avait ciblé des étudiants du centre Guinot parce qu'ils ont une formation de développement, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'était développement web. Donc c'était des personnes déficientes visuelles ou devenues déficientes visuelles qui apprenaient le métier de développeur web, en fait. Et donc on trouvait que c'était sympa. On a été voir leurs profs, on leur a demandé est-ce que ça vous intéresse comme expérience de faire cet atelier qui est en lien avec la formation que vos étudiants suivent. Et puis ils nous ont dit OK, on y va, on a fait un partenariat et on a mis ça en place, enfin, comme une offre d'atelier qui peut se faire un peu partout dans n'importe quel établissement culturel. Et ça pourrait très bien être ouvert à d'autres étudiants en situation de handicap ou pas.
En vrai, le principe de Game Jam dont on parlait tout à l'heure se prête très bien à ce genre de réflexion et d'expérimentation. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences en accessibilité. Donc, aujourd'hui, Capgame intervient dans pas mal d'écoles du jeu vidéo pour faire entrer dans les contenus de formation les questions autour de l'accessibilité. Donc les professionnels aguerris au sujet manquent encore. Néanmoins, comme le disait Ahmed tout à l'heure, sur la table ronde précédente, l'idée n'est pas forcément de mettre le focus sur l'accessibilité ou le handicap, mais de proposer des ateliers de création de jeux vidéo avec des étudiants en jeux vidéo, avec des étudiants en développement, avec n'importe quel profil finalement de personnes, puisque les game jams sont ouvertes à vraiment tout le monde. On peut être musicien, on peut être cuisinier, banquier, participer à une game jam et amener finalement sa pierre à l'édifice. Et ce genre de dispositif avec une thématique qui serait plus de l'ordre de la contrainte, je vais l'éclaircir après, serait tout à fait pertinent pour imaginer des nouvelles formes d'accessibilité. Pourquoi je parle de contrainte au même titre que Kamed en parlait tout à l'heure, c'est que plus il y a de contraintes et plus il y a de créativité derrière. Parce que quand on dit aux gens, ah ouais, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous devez quand même arriver à faire un truc sympa, bah là ça commence à phosphorer et on trouve des choses qu'on n'aurait pas été chercher en temps normal parce qu'on n'y aurait pas été poussé. De ce fait, dire, comme on le fait dans plusieurs établissements, bah vous devez développer un jeu à un seul bouton, bah c'est déjà approcher le jouer autrement et donc l'accessibilité parce qu'il y a des personnes qui nativement ne peuvent donc une seule interaction, donc un seul bouton à leur disposition, et c'est déjà commencer à proposer une offre ou à imaginer une offre pour des personnes qui seraient en situation de handicap. Dire on développe sur cette game jam un jeu uniquement visuel ou un jeu uniquement sonore, c'est déjà approcher les questions d'accessibilité parce que du coup ça sera accessible de fait aux personnes sourdes respectivement ou aux personnes aveugles, tout en permettant à tous les autres profils qui ne sont pas en situation de handicap d'y jouer également. Donc je trouve que la game jam est une forme d'animation et qui a une plus-value super importante parce qu'elle permet à la fois la sensibilisation des publics à ces sujets et en même temps une vraie création et des vrais prototypes qui sortent et qui peuvent déboucher sur de belles histoires. On a quelques exemples dans différentes écoles du jeu vidéo, notamment à Angoulême, à Lengmin, de projets de première année qui ont été complétés peut-être en deuxième année et qui sont devenus des studios de jeux vidéo parce que parce que l'histoire a bien marché. Et au départ, c'est un atelier dans le cadre de l'école qui est proposé et qui va amener finalement à ses réflexions, à ses créations, etc.
Merci. Alors, je pense qu'il est, temps, là. Je vois Émilie qui me fait le signal. Ça, je comprends ce signe-là. Donc, as-tu des questions en provenance Alors, on commence peut-être par la salle, honneur au présent.
Bonjour. Du coup, par rapport à l'atelier qui a été réalisé pour faire découvrir justement les jeux à destination de public malvoyant ou aveugle, est-ce qu'il y a une trace qui a été gardée de cet atelier? Est-ce que la liste des jeux jouable par des gens en situation de handicap à ce niveau-là, on peut le retrouver sur Internet, sur votre site web?
Oui, on a mis une partie des jeux sur le site de la Cité des Sciences dans la rubrique « Ma cité accessible, déficient visuel » et là, on a « Jeux vidéo ». Certains de ces jeux sont installés à la salle Louis Braille et la plupart des jeux qu'on avait sélectionnés pour cette animation, on voulait que ce soit des jeux qui soient gratuits, téléchargeable ou alors en mode démo, mais nous on n'a pas payé on n'a pas payé pour avoir la version complète et on peut les retrouver sur le site Audio Games, enfin il y a des voilà, et si besoin, si vous trouvez pas, il n'y a pas la liste de tous les jeux sur le site Ma Cité Accessible, mais si besoin on peut vous les renvoyer. Et on avait aussi créé des mini fiches de prise en main rapide du jeu. Vraiment, c'était le début, genre comment jouer, utiliser tel raccourci clavier pour avancer, reculer, j'en sais rien, tirer, enfin voilà. Mais c'est vraiment le principe. C'était très très court, mais ça, oui, c'est normalement ça devrait être. Je pense que c'est toujours actif le lien, donc normalement vous devriez le retrouver.
Juste, Cara, je profite qu'on parle de la programmation de la cité. Donc en 2019 avait eu lieu une table ronde à laquelle Jérôme avait participé sur handicap et accessibilité. C'était prévu qu'il y en ait une par an. Est-ce qu'il y en aura une bientôt?
Alors, en cours de validation, il devrait peut-être y en avoir une en début d'année 2022, donc je crois que c'est en janvier. Et voilà, pour le moment, c'est en cours de préparation, donc je pense qu'on vous communiquera l'information. Enfin, en tout cas, la personne responsable de ce projet qui travaille à ILAB, en fait, qui est un espace de jeu vidéo dédié à la Cité des Sciences, est en cours d'instruction. Donc, théoriquement, ça devrait se faire, mais on attend la validation.
Alors, il y avait une deuxième question, j'ai vu tout à l'heure, oui, un bras qui s'était levé.
Bonjour. En partant sur la typologie de jouer autrement, je vais poser un peu une question utopiste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeux où on pourrait jouer avec différentes typologies de capacités? Est-ce qu'aujourd'hui, le rêve de jouons tous ensemble avec différentes capacités est réalisable, ou on en est encore dans le cadre de l'utopie? Différents types de handicaps jouant ensemble, si je puis m'exprimer ainsi.
Ok. On commence, c'est pareil, c'est la même temporalité, on est sur des choses qui commencent à apparaître, qui commencent à se créer, sur des expérimentations qui naissent. Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui qui sont soit permises par le fait qu'un jeu est plus accessible, pardon de réutiliser un truc que j'ai dit de ne pas utiliser, mais plus accessible que d'autres. Alors je pense notamment à The Last of Us, deuxième opus. C'est aujourd'hui celui qui fait la référence un petit peu en termes de capacité de déploiement, d'adaptation du jeu dans les menus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très riche en termes d'adaptation. Il peut être joué par des malvoyants, par des non-voyants. Il y a vraiment du guidage type GPS, il y a de l'audio description, ou au moins un sound design qui permet de prendre les informations qu'on ne peut pas prendre visuellement, et d'être complètement autonome sur un jeu qui est somme toute assez linéaire et narratif, mais c'est quand même une belle démonstration de ce que pourrait, là je devrais faire, l'industrie du jeu vidéo dans n'importe laquelle de ses productions. En ce qui concerne la capacité de faire jouer les gens ensemble, on a commencé en 2018 des expérimentations avec Capgame sur la partie e-sport, où justement l'idée était de mélanger un petit peu les profils et de permettre de proposer des compétitions qui soient accessibles à des joueurs et des joueuses aux capacités différentes. Bon, le Covid a mis un bon stop à toutes ces histoires-là, mais on était quand même arrivé à proposer trois jeux différents, donc un jeu de foot, un jeu de combat et un jeu de conduite automobile, à des publics qui étaient plutôt à l'époque en situation de handicap moteur, avec un usage plus ou moins possible du monde supérieur, et à des personnes sourdes. Et donc l'idée est de prolonger ces expérimentations, de les reprendre dès qu'on pourra le faire, pour voir vraiment expérimenter, tester, évaluer l'organisation, les dispositions matérielles, logicielles, humaines dont on a besoin dans le cadre du déploiement d'un événement inclusif. Quand je parle de tout ça, je parle évidemment de s'assurer que l'accès des bâtiments est possible pour n'importe quel type de public, mais également la communication. Est-ce que la communication en amont de l'événement a été rendue accessible? Est-ce qu'on a fait des capsules vidéo? Est-ce qu'elles ont été sous-titrées? Est-ce qu'il y a eu de la langue des signes dessus? Est-ce que les canaux de communication qu'on a choisis sont des canaux de communication sur lesquels on peut trouver des personnes en situation de handicap ou pas? Est-ce que sur place, il y avait des interprètes en langue des signes? Donc nous, sur la deuxième année, on avait des interprètes en langue des signes qui nous ont accompagnés sur cet événement, et donc qui permettaient aux joueurs sourds d'être à égalité, finalement, en termes de prise d'information, de communication avec les joueurs qui étaient entendants. Est-ce que les scènes, parce qu'on a fait les finales sur la scène de la Paris Games Week, les scènes étaient accessibles? Est-ce qu'il y avait une rampe pour monter sur scène? Est-ce que tous les dispositifs humains, organisationnels, logiciels, matériels, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur un événement standard, chaque point a été étudié avec un point de vigilance sur la question de la diversité des publics. Et ça, c'est assez fat comme chantier. C'est encore de l'ordre de l'expérimental, même pour des professionnels qui viennent aussi nous voir pour les accompagner là-dessus, malgré notre expertise finalement assez récente. Et on a besoin de... En vrai, on a besoin de multiplier les expérimentations et les déploiements pour, comme je disais tout à l'heure, voir les trucs qui marchent, les trucs qui ne marchent pas, comment on a trouvé une astuce pour rendre ça plus accessible pour tel type de public ou un truc à moindre coût ou quelque chose qu'on peut mutualiser et arriver à construire un référentiel qui va nous permettre d'automatiser ça et de banaliser ce type d'organisation.
Merci.
Juste, je me permets, excusez-moi, si je peux.
Oui, je te donnais la parole.
Oui, j'en profite. En fait, je récupère ce que tu dis, Jérôme, en effet, notamment par rapport à la présence des interprètes en langue des signes et au niveau de communication. Parce qu'en effet, justement, dans la langue des signes, évidemment, et c'est pareil dans le français, il y a un lexique très riche, un vocabulaire très riche, mais c'est vrai que dans les domaines spécialisés, comme le domaine du jeu vidéo, par exemple, le lexique n'existe pas forcément, alors que pourtant, dans la communauté sourde, il y a plein de gamers différents, évidemment, qui utilisent les jeux vidéo, qui, notamment l'association OneGeek, par exemple, qui rassemble beaucoup de gamers en langue des signes autour du jeu vidéo. Et évidemment, il y a beaucoup de lexique qui commence à apparaître avec les titres de jeu notamment, ou les façons de jouer, ou les façons de faire. Et donc, il y a des signes qui se créent, des réflexions qui se font, comme les néologismes existent aujourd'hui en langue des signes. Et justement, à la bibliothèque avec la Bavel, on s'est dit qu'on allait créer vraiment un signaire, en fait, hein, comme une sorte de petit dictionnaire. Et justement, avec l'association CapGame, on participe avec eux à l'établissement de ce lexique. OneGeek a participé également au projet. En fait, l'idée, c'est de réfléchir autour de tout ça et d'avoir des signes qui existent déjà naturellement dans la communication libre, hein, entre deux personnes signantes entre elles, de les récupérer, de créer un lexique et de pouvoir faire ce dictionnaire qui soit à disposition, justement, des professionnels aussi. De jeux vidéo, des interprètes, des personnes sourdes, et puis de faire une vraie plateforme, une vraie ressource en fait lexicale. Et donc les personnes qui adorent les jeux vidéo, qui souhaitent utiliser des signes autour de ces jeux vidéo-là, puissent consulter cette plateforme. Et puis c'est vraiment à disposition de tous, hein, que ce soit les personnes sourdes, les personnes entendantes curieuses, que ce soit aussi justement, je reboucle là-dessus, les interprètes en langue des signes qui traduisent ce genre de d'endroits aussi qui ne sont pas forcément accessibles aussi en termes de néologisme, de vocabulaire, de lexique. En langue des signes, quand le signe n'existe pas standardiquement, il est éplé. Donc pour éviter ça, en fait, ça permet d'avoir une communication aussi plus à l'aise et on a créé ce projet avec la bibliothèque, avec la Bavel et CapGame.
Et donc la disponibilité ou la mise en ligne pour pouvoir s'y référer, c'est pour bientôt ?
Alors, quand ? C'est une vaste question. On essaye le plus vite possible. On en est au troisième groupe de travail. La prochaine fois, le prochain groupe de travail, ce sera la troisième fois. Donc, je veux pas dire de bêtises. On avait essayé de tenter un fin 2021. Peut-être ce sera un début 2022. On essaye de se caler là-dessus. On va voir. Évidemment, vous serez informés quand ce sera diffusé. D'accord. Et là, justement, il y a eu une toute petite vidéo capsule sur Mario Kart, notamment, et d'autres titres de jeux. Donc, Mario Kart, par exemple, je vous le montre là maintenant. C'est comme ça qu'on dit.
D'accord.
Comme ça. La moustache et le volant.
Super. Bon, en tout cas, on relaiera l'information sur Alphabib. Là, je passe la parole à Émilie, qui a peut-être des questions en ligne.
On n'a plus le temps là pour les questions. On n'a plus le temps là pour les questions. Il va falloir qu'on libère tout le monde. Merci beaucoup à vous quatre. Et merci aux questions dans la salle.
Merci beaucoup.
Nathanaël, tu veux dire un mot de conclusion ?
Très rapide mot de conclusion, on vous laisse manger, on vous laisse assimiler toutes ces idées et on vous attend du coup à partir de 14h30 dans la Bibliothèque publique d'information. Alors, vous connaissez la BPI, maintenant on rentre toujours comme avant, finalement à cause du Covid par la rue Rambuteau. L'après-midi de découverte, en fait, on va tester des dispositifs en partenariat avec CapGame qu'on va retrouver, avec David qui va faire un live stream, avec Brut Pop, avec l'APF France Handicap et d'autres bibliothécaires, notamment Cyril Jaouin et Simon Royer. Donc, c'est à partir de 14h30 jusqu'à 17h30. Vous pouvez prendre le temps de manger, d'aller faire un tour dans Paris et de revenir. Et donc voilà, ça sera à la BPI. Si jamais vous voyez qu'il y a beaucoup de monde devant la porte, il y aura une file dédiée juste à l'entrée qui vous permettra de rentrer en accéléré. Elle va vraiment être ouverte un quart d'heure et 10 minutes après, 14h30, 15h30 et 16h30. Et pour les professionnels qui ont besoin d'une attestation de présence, vous n'hésitez pas ou à la demander à l'entrée ou à la demander aux médiateurs qui sont dans le salon. Ça, c'est du détail technique et je vous souhaite un bon appétit. Et sinon, on se retrouve demain dans cette salle pour continuer les festivités. Merci à tous.